Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme derrière le micro, je vous parle en ce 19 mai. Alors qu'on connaît maintenant les quatre équipes qui seront du carré d'as dans les finales d'association des séries éliminatoires de la Coupe cette année. Les Oilers d'Edmonton, les Stars de Dallas vont s'affronter dans l'Ouest. Les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline ont rendez-vous dans l'Est. Et pour parler de tout ça aujourd'hui, ben je les rejoins pour une rare fois dans les dernières semaines. Je les rejoins en direct de Montréal, ou du moins la grande région de Montréal, les deux. Jean-François Chaumont, salut JF.
Salut Nick, Longueuil pour être plus précis.
J'ai du grande région de Montréal.
Tout près.
Tu te rends jusqu'à chez nous à Chambly habituellement pour ça. Et Guillaume Lepage. Guillaume qui vient tout juste d'atterrir à Dorval, Pierre-Yves-Trudeau, Yule. Donc Guillaume, un gros merci de te... T'as eu le temps de faire ton lavage, de commencer ton lavage. Ça brasse là.
Le lavage, oui, c'est ça. J'ai fermé la porte de la salle de bain pour pas qu'on entende la petite, la petite symphonie qui indique la fin du lavage. Donc tout est en marche. Un retour ce matin mouvementé par la nouvelle procédure des Uber à l'aéroport Montréal-Trudeau. Là. Encore un coup de génie là, de cette,
cet aéroport-là. Je savais que Guillaume était pour grogner. J'avais expérimenté cette semaine l'idée absolument géniale de changer le processus qui roulait quand même bien du côté de Dorval. Donc, quand ça va bien, on le change. Même les chauffeurs n'ont aucune idée de la démarche. Et ce que j'aime aussi, je tiens quand même à le saluer, de tous les employés, je crois qu'il n'y en avait aucun qui parlait français. Et pour une rare fois, je faisais exprès de faire semblant de ne pas parler anglais parce que là, tu atterris à Montréal, tu peux quand même t'attendre à un service bilingue et dans ta langue en français. Mais non, c'était trop compliqué pour un système où on a réussi maintenant à créer des fils monstres pour attendre. Donc, déjà, le premier coup d'œil.
Je pense que c'est une première en Amérique du Nord. Les fils pour les Uber. Ça, c'est une invention montréalaise.
T'attends, puis ensuite, t'as le trafic Dorval-Centreville. Donc, vraiment un 10 sur 10 pour si jamais on nous écoute du côté de Dorval. Faites attention, peut-être que ce serait une idée de changer le système.
Vivement que le REM se rende du côté de Dorval. On vise quoi, 2035, c'est... 2038, rendu là? Ouais. Là?
Mais si c'est comme 15 ans, on devrait se rendre à l'aéroport.
C'est comme le tunnel, tu sais, une construction qui peut prendre 3 ans, elle prend 6.
Je l'ai pris, le tunnel, en fin de semaine. Très beau, très réussi, c'est joli. La nouvelle partie tunnel, écoute, ça a été bien fait. Fait qu'au moins, il y a ça, là. Ben, bien fait. L'eau ne me coulait pas dessus. Là. Non, déjà c'est là, c'est une belle victoire. Là. Donc, c'est ça. On salue tous les gens en Europe présentement qui n'ont aucune idée de quoi
mais
on
ça,
parle.
Ça, c'est le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine.
C'est celui qui passe sous le fleuve pour rentrer à Montréal. Mais j'imagine que du côté de la France, ben, de toute façon, que vos infrastructures marchent bien ou non, vous êtes en grève. Donc, ça, c'est l'autre problématique. On a chacun nos propres problématiques de chaque côté de l'océan. Hey, les gars, on va parler, bien évidemment, des séries éliminatoires aujourd'hui à l'émission. Comme je dis, vous êtes à Montréal présentement, mais vous partez sur la route. Là, qui couvre quoi pour les prochains jours, prochaines semaines?
Moi, je resterai dans l'Ouest. Départ pour Edmonton pour les matchs 3, 4 et probablement les rencontres suivantes. Donc, Edmonton-Dallas, pour moi, Guillaume reste avec ses Panthers, aime beaucoup la Floride.
Oui.
Donc, Floride-Caroline.
J'adore Fort Lauderdale, ça se travaille très, très bien. On parle d'à peine 45 minutes de trafic pour se rendre à l'aréna, donc c'est toujours un charme. Si l'aréna des Panthers était au centre-ville de Fort Lauderdale, pas très loin de la plage, on aurait beaucoup de plaisir là, mais... Disons que Sunrise, là, sur le bord d'un étang où on avertit de faire attention aux crocodiles.
Aux alligators.
Alligators, crocodiles.
Alligators, crocodiles. T'étais à ça de chanter la toune.
Mais Guillaume devrait s'acheter un lézard. Parce que hier, Guillaume était de mauvais poil parce que les Maple Leafs sont incapables de gagner un septième match. Et point de vue logistique, Toronto est beaucoup plus simple que Sunrise.
Oui.
Donc, Guillaume m'a envoyé un texto qui contenait quelques jurons. Et le texto, mes filles ont pris le téléphone et Lilia, la petite à Fanny, ma copine, puis disons qu'ils n'étaient pas impressionnés par la qualité du message.
Je me suis fait chicaner ce matin, ouais.
Lilia, 14 ans, Lilia, beaucoup de sagesse, disait Guillaume qu'il devrait s'acheter un gros lézard à la jouetterie. Question de se le placer sur les cuisses, sur la passerelle et de se calmer plutôt
que gérer mes émotions.
De mauvais mots. Donc, c'est le conseil du jour qu'on offre. J'ai vraiment hâte de voir Guillaume passer la sécurité à l'aéroport avec un immense lézard pesant en jouet.
En tout cas, honnêtement, je vais y penser si on a droit à une finale Edmonton-Floride. Je pense que je vais passer à la jouetterie avant de partir parce que ça s'annonce long et pénible.
Oui, des vols de 15 heures encore une fois. Écoutez, les gars, vous êtes à... peut-être 7 matchs ou moins là, de chaque côté, de vous retrouver avec le même scénario que l'année passée. Donc, je vous souhaite... j'imagine que ça va influencer vos prédictions. D'ailleurs, prédictions, on va en parler un peu. Après cette deuxième ronde, jusqu'à présent, dans l'équipe ici, là, les trois, on est 8 sur 12 dans mon cas. JF, 7 sur 12. Guillaume, plus tough, hein? 6 sur 12 jusqu'à présent. Après moi, Guillaume, il vote
avec le meilleur pour la fin.
Ben, il vote avec ses Air Miles, il vote pas avec son jugement. Et on salue Philippe Landry, notre collègue à LNH.com, qui, non seulement, tu sais, dans les grands bonheurs de la vie, non seulement est 10 en 12 dans nos prédictions présentement, mais est aussi devenu un nouveau papa aujourd'hui d'une petite fille, Emma. Donc, tu sais, entre les deux, je ne sais pas lequel il préfère quand même, mais bon, parce que tu sais...
Ben, avoir ses messages sur la conversation, je pense qu'il préfère ses prédictions presque parfaites.
Tu sais, des enfants, tout le monde en a, mais gagner un pool de hockey, il y a une personne qui peut faire ça par année.
Bravo à Phil, un beau moment.
Surtout à sa douce conjointe Sonia. Phil a vécu ce que tout homme vit lors d'un accouchement, c'est-à-dire servir à rien. Hein? C'est le grand sentiment. Je ne sais pas vous autres
comment vous vous sentiez, mais d'ailleurs, moi, il m'a aussi abandonné au pupitre hier soir, je tiens à le souligner. Je soutiens toujours que c'était une belle excuse là, pour ne pas avoir à traiter mes textes de fin de soirée. Mais non, Phil est parti en plein milieu de la soirée. Comme ça. Il a décidé que c'est terminé.
Donc, on va écrire à New York. Il doit 4 heures de travail sur son bill. Écoute, ça fait déjà 8 minutes que le balado est commencé. On va arrêter de vous parler de notre vie personnelle. On va parler de hockey. On va bien évidemment retourner sur la série Toronto-Floride qui s'est terminée hier. Écoutez, les gars, on y a cru peut-être à Toronto jusqu'à temps que le match commence. Parce que ça n'a pas été long qu'on a compris qu'il y avait une équipe qui avait décidé de se présenter et c'était pas celle qui portait du bleu et du blanc.
Donc, ça allait très, très vite pour les Maple Leafs en début de match. Les 21 premières tentatives de tir ont été l'affaire des Panthers dans ce match-là. Il n'y en a pas beaucoup qui ont raté la cible. Je pense qu'on était... à un moment donné, le compteur est monté jusqu'à 8. On en a retiré quelques-uns pour terminer à 5. Donc, ça a été quand même un problème qui est revenu du côté des Panthers. Là, on lançait beaucoup dans les jambières des joueurs des Maple Leafs. On ratait la cible et tout ça. Mais 21 tentatives de tir en quoi 10 minutes, même pas, dans les 10 premières minutes. Ouais. C'est quand les Maple Leafs touchaient à la rondelle, c'était pour faire un lob en zone neutre ou essayer de dégager la rondelle. C'était vraiment, vraiment pénible. Puis, tu sais, pour une rare fois, hier, avant le match, je trouvais que la foule du Scotiabank Arena était bruyante, était impliquée, puis on n'avait pas trop besoin de leur indiquer qu'il fallait faire virevolter les serviettes au-dessus de leur tête pour encourager l'équipe. Ils le faisaient par eux-mêmes, mais là, dès le début du match, quand ça s'est mis à tourner en territoire des Maple Leafs, ben là, on a senti l'inquiétude, la nervosité revenir. C'était silence complet, à part quelques « go Leafs go » quand on essayait une contre-attaque ou une petite percée en zone offensive, mais vraiment, ça a donné le ton à ce match-là.
Même Justin Bieber était calme.
Oui, danser un petit peu là, derrière le banc des Maple Leafs, mais honnêtement, je salue quand même son courage.
Son manteau aussi, quand même, 10 sur
10. Ouais, c'est...
Ben, je pense que c'était le chapeau qui volait le spectacle.
Le chapeau, le manteau.
Personnellement. Mais,
Josh Clipperton ne porte jamais ça. Juste pour préciser, notre collègue de Toronto.
Il voulait juste faire une mention. De
tu sais tout à ça.
Mais non, je tiens à souligner que Justin Bieber est resté jusqu'à la toute fin du match, donc courageux.
Contrairement à d'autres.
Un courageux, un vrai. Mais non, tu sais, les Maple Leafs ont donné signe de vie peut-être après la moitié, à peu près la moitié de la première période.
Mais les 10 dernières, il y a quand même eu des chances de marquer. Là. William Nylander, Scott Laughton.
Les Maple Leafs, 4 chances dangereuses là, dans les 10 dernières, parce que ça a pris 11 minutes 35, je pense, avant de décocher un premier tir. Mais dans les 9 dernières minutes, on a réussi à aller chercher 4 chances dangereuses. On a eu des échappées, mais Bobrovski a fermé la porte. Puis là, en deuxième période, ben, la chaîne a complètement débarqué, comme on avait vu un peu là, dans le match numéro 5.
Si Nylander marque sur son échappée, sur le premier tir du match là, des Maple Leafs, peut-être qu'on a une autre histoire, mais tu es allé dans le vestiaire après, Guillaume. Encore une fois, c'est le copier-coller parce que c'est toujours les mêmes réponses, les mêmes. La même incompréhension année après année, peu importe la recette, là, peu importe qui est en arrière du banc comme entraîneur, comme directeur général en haut, les joueurs de soutien, c'est tout le temps ça. Et j'imagine qu'on n'avait pas plus d'explications cette année. La différence, c'est que il y en a peut-être que c'est la dernière fois qu'il va falloir qu'ils fassent des explications à Toronto. Là.
Ben, c'est ça. La question a été posée très directement à Austin Matthews après le match. C'était est-ce que vous êtes tanné de devoir faire ça, de passer par cette étape-là, d'expliquer une autre défaite en match ultime. C'est une septième depuis la formation du noyau d'attaquant là, en 2016-2017. Tavares s'est joué un petit peu après, je crois, mais ce noyau-là n'a jamais réussi à gagner des matchs importants. Jamais vraiment réussi. Bon, on a gagné deux séries, on a atteint la deuxième ronde à deux reprises dans ces 9 années-là. Mais à chaque année, c'est l'année des Maple Leafs. Bonne saison régulière, on est dominant quand même. On a des bons éléments offensifs, on a une défensive correcte. Tu sais, cette année, j'aimais bien l'acquisition de Brandon Carlo, qui a connu un match difficile hier, disons-le. Chris Tanev
son popotin a mieux joué, par contre. Il a fait un bel arrêt avec un bel arrêt.
Mais puis là, tu te dis Craig Berube est là, il a l'expérience, tu sais, a gagné un match 7 en finale de la Coupe Stanley. C'est une équipe qui jouait différemment aussi. On joue un style un petit peu plus, un style de jeu qui est adapté aux séries éliminatoires. Mais encore une fois, tu arrives dans un grand moment, puis les Matthews, les Marner, les Nylander, Tavares, complètement... Je dirais pas invisible. Matthews a connu de bonnes séquences. C'est impliqué physiquement aussi. On a essayé des choses, mais au final, c'est pas assez. Là, ces joueurs-là, dans des matchs aussi importants, faut qu'ils se lèvent, faut qu'ils trouvent un moyen d'être productifs et de mettre l'équipe sur leurs épaules. Ils sont manifestement pas capables de faire ça. Puis Craig Berube, ce que je trouve intéressant, c'est que lui arrive avec un nouveau regard sur cette formation-là. Puis après le match, la question lui a été posée, comment est-ce que tu expliques ça? Les deux derniers matchs à domicile dans cette série-là, des défaites humiliantes de 6-1. Puis il dit, j'ai pas de réponse pour vous. T'sais, il dit, c'est... fait que rendu là...
Lui, il vient de comprendre c'est quoi, là. Ça
vient
de faire en pleine face que c'est Toronto, là.
Je pense qu'il vient de voir que c'est un mystère complet, là. Je veux dire, c'est la pression, c'est le poids peut-être qui étouffe ces joueurs-là dans les grands moments parce que, tu sais, au sixième match, les Panthers n'ont pas joué de l'excellent hockey, mais il faut dire que les Maple Leafs ont été à peu près parfaits. Tu sais, on a tenu tête aux Panthers, on a profité de nos quelques chances. Tu signes une grosse victoire à l'étranger, tu reviens à la maison, puis là, on se dit, il y a une chance, tu sais, l'énergie de la foule, tout ça, puis... Tu t'écrases encore une fois, c'est. Il n'y a vraiment pas d'explication à trouver à ça. Là. C'est...
Tu parles d'un mystère, Guillaume. C'est un mystère ou si c'est l'identité des Leafs, des joueurs qui n'ont peut-être pas le caractère non plus pour cocher présent dans un grand match. Le match 5, c'était le type de match à Toronto où tu disais ils ne peuvent pas l'échapper. Ils venaient d'en perdre 2 d'affilée en Floride. Un effondrement total, défaite de 6-1. Les matchs 5 et 7 à Toronto, là, pas besoin d'être le plus grand des mathématiciens, là, mais c'est 12-2, la marque totale. Donc, c'est plus qu'une varlope. Puis on dirait que le match 6, c'était le match où il y avait moins de pression. Tout le monde s'attendait à voir les funérailles pour les Maple Leafs. Ils ont gagné ce match-là 2-0. Tu te dis, OK, l'espoir renaît, il rentre à la maison. Non. devant les partisans à Toronto, un match avec grande pression. L'affiche de Brad Marchand dans les matchs numéro 7, c'est pratiquement impeccable, mais les Mitch Marner, les Austin Matthews sont incapables d'aller chercher cette fameuse victoire-là au plus grand des moments. Ça fait en sorte qu'on va avoir d'autres semaines rocambolesques du côté de Toronto à suivre la saga. Qui va partir? Qui va rester? Qui va perdre son poste? Ça risque de brasser dans les prochains jours du côté de la ville reine.
Et c'est les Bruins de Boston qui doivent être heureux parce que Brad Marchand, là, le choix de deuxième ronde qu'on a eu pour lui devrait devenir un choix de première ronde parce que les Panthers ont joué plus que deux rondes. Mais Marchand, c'est le premier joueur à battre 5 fois le même club dans un match ultime dans l'histoire de la LNH. C'est une chose de faire ça, mais c'est qu'hier, il a été la vedette du côté des Panthers. Il a été le dynamo de cette attaque-là, de cette équipe-là. Puis c'est, on comprend pas, tu parlais d'identité puis tout ça. Jamais Toronto a ce type de joueur-là qui prend une équipe sur son épaule dans un 7e match. Puis là, on va en parler des changements qui s'en viennent, mais ils n'en ont pas. Puis je vois mal comment ils vont réussir à aller en chercher un prochainement. Parce que là, il y a bien des changements. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Quand on peut tomber dans la reconstruction, là, on va y aller. Aussi bien y aller, on ouvre la porte. Là. Mitch Marner peut devenir joueur autonome sans compensation. Guillaume, hier, disons qu'il ne l'a pas faxé, que c'est pas mal la fin là, dans son ton et dans ses propos. Là.
Ben, je veux dire, si la foule voulait le chasser de la ville, oui. Se sont pris par la meilleure des façons. Là. À partir de la. Il restait, je pense, 10 minutes à la troisième période. On portait plus ou moins attention au match à ce moment-là, mais là, le jeu se déroulait. J'avais les yeux sur mon ordi, puis à un moment donné, la foule s'est mise à huer bruyamment. Là. Puis là, je me suis dit, bon, c'est quoi? On a manqué une punition. Et là. J'ai levé les yeux, puis Mitch Marner venait de sauter sur la glace. Il n'avait même pas touché au disque. Il venait juste de poser les patins sur la glace. On se mettait à le huer, puis là, après ça, à chaque fois qu'il touchait la rondelle, ça huait plus fort et plus fort. Fait que, tu sais, je veux dire, Mitch Marner, c'est pas nouveau. Là. C'est celui qui porte le poids de ses éliminations habituellement parce que c'est pas un joueur qui produit nécessairement dans les grands moments. Hier, il n'était pas seul, mais la foule a décidé de s'en prendre à lui. Puis, bon, ça a été une fin assez triste. Après ça, dans le vestiaire, ben, on lui a demandé est-ce que tu as pensé à tes plans, à ton avenir, est-ce que tu as l'intention de revenir. Puis, si John Tavares a clairement dit moi, je veux revenir, j'aime ça ici, et c'est bien pour ma famille et tout. Mitch Marner s'est limité à dire que. Lui, il n'avait pas pensé à ça encore, qu'il était encore sur l'état de choc de la défaite, puis que ça allait être des questions pour plus tard, mais je veux dire.
C'est pas vrai, ça, là.
Ben non, il a eu toute la saison, il sait, là, depuis le début de la saison, il en est à sa dernière année de contrat, là, s'il veut rester, puis si la direction veut qu'il reste, ben je veux dire, il y aurait peut-être eu des discussions en cours de saison plutôt que de maintenant risquer de le perdre sur le marché des joueurs autonomes pour rien. Fait qu'il est au courant de cette situation, il veut juste pas en parler selon moi, puis parce que probablement que ça indique qu'il est prêt à passer à autre chose. Je pense que le moment est bien choisi parce que c'est un autre échec. Tu peux pas te dire on va donner une autre chance à ce noyau-là, puis ça va fonctionner l'an prochain. Je veux dire, ça fait quelques années qu'on fait ça. Donc, du côté de l'équipe, je pense que la porte est ouverte à des grands changements. Puis là, on arrive au terme de ce contrat-là du côté de Marner. C'est un joueur qui, j'ai pas l'impression qu'il carbure tant que ça à l'attention, à la pression d'un gros marché comme Toronto. Donc, peut-être pour lui, ce serait bien de tourner la page puis d'aller évoluer dans une autre équipe. Peut-être être moins au centre de l'attention qu'il a à Toronto.
Il ne faut pas oublier aussi qu'à date limite des transactions, si tu veux harmoniser une relation, Brad Treliving avait posé la question à Mitch Marner s'il pouvait peut-être accepter une transaction. Les Leafs avaient cogné à la porte pour Mikko Rantanen. Donc déjà
En Caroline, au
moment où les Hurricanes cherchaient à rééchanger Mikko Rantanen, prise 2. Donc déjà, je crois que la relation est probablement difficile, mais si tu veux regarder pour le futur. Marner et Tavares, on parle de 21 millions qui pourraient se libérer sous le plafond salarial. Il y a des sous qui vont aller à Matthew Knies. Matthew Knies, d'après moi, c'est pas loin de 7 millions par saison. Puis Knies, qui était blessé en fin de parcours, a quand même démontré qu'il a le coffre pour jouer en série. C'est un gros ailier, il est puissant. Donc, va devenir un joueur important du noyau des Maple Leafs. Voyons voir ce qui va se passer. Mais moi, je pense, on spécule, mais un Sam Bennett qui pourrait explorer le marché des joueurs autonomes, Bennett serait exactement le type de joueur qui pourrait cadrer avec les Maple Leafs. C'est un autre gars aussi de la grande région de Toronto. Est-ce qu'il voudrait se ramasser dans la marmite torontoise? On verra. Il ne faut jamais négliger les Panthers. Ils ont toujours le don aussi de trouver des façons de garder leurs joueurs à des contrats avantageux avec l'État de la Floride.
Ceux qui n'ont pas gardé l'année dernière étaient à Toronto cette année. Ça n'a pas été, ça n'a pas changé grand-chose.
Mais tantôt, je regardais les stats là, de Brad Marchand. C'est 34 ou 37 points en carrière contre les Maple Leafs en série. C'est maintenant 37 points, dont 13 buts en 35 matchs. Donc, quand tu parles d'un joueur qui a le don de venir faire mal à une équipe, puis quand même, coup de chapeau pour l'instant à Bill Zito. Là, Brad Marchand a bien joué dans le moment important et Seth Jones a joué aussi un très bon match numéro 7. Deux acquisitions de Bill Zito et les Panthers.
On a parlé de Marner, de Tavares, mais vous pensez que les changements vont aller jusque où dans l'organisation des Maple Leafs?
Ben, je pense que Brendan Shanahan, d'après moi, c'est déjà l'an dernier, je me souviens, on en parlait pour faire une autre mention avec le collègue Josh Clipperton qui a posé la question, je pense, au bilan l'an dernier, puis il demandait qu'est-ce qui justifie que le coach s'en va, que le GM s'en va un an plus tôt, mais que le président reste là année après année, alors que le scénario se répète.
Ça travaille à l'envers à Toronto. Hein?
C'est ça. Puis là, l'an dernier, c'était comme encore le discours, on a confiance en son plan et tout ça. Mais là, je veux dire, un autre résultat comme ça, tu peux pas... T'sais, il a changé l'entraîneur, il a changé le directeur général. Visiblement, il y a quelque chose dans la vision de l'état-major qui est peut-être la vision de Shanahan qui impose à son GM ou à son coach qui, qui cloche. Donc pour moi, Brendan Shanahan, je pense que c'est une des têtes qui va tomber. Du côté du directeur général, j'ai l'impression que t'sais, lui a... peut-être eu le mandat de conserver le noyau intact puis d'essayer pour une dernière fois de mieux l'entourer. T'sais, les acquisitions des joueurs des Panthers, on en parlait, je pense que ça c'était pas fou d'aller chercher des joueurs avec de l'expérience comme ça. Puis t'sais, un Stephen Lawrence, quand même, c'est pas le joueur le plus talentueux, mais c'est un gars que tu veux avoir en série, qui travaille, qui va toujours avoir la pédale au plancher. Un Ekman Larson a fait le travail en défensive. Stolarz, bon, on ne l'a pas vu dans cette série-là parce qu'il a été blessé au premier match, mais tu sais, on a essayé de mieux entourer ce noyau-là, mais...
Et je trouve qu'on l'a fait. Tu regardes les acquisitions, tu parlais de Carlo là, tantôt, je veux dire,
ouais.
Tout est bien autour du noyau, donc le trouble, il est où?
Mais c'est ça, puis c'est qui a décidé que le noyau reste intact encore cette année? T'sais, selon moi, ça vient de plus haut que Treliving, peut-être un Shanahan. Fait que si c'est lui qui a donné le mandat d'essayer une autre fois, ben là, pas le choix de payer le prix éventuellement. Le Craig Berube, le directeur général, je pense qu'on est correct parce que, comme tu dis, Nick, le travail a été fait au niveau de l'équipe. Puis, tu sais, hier, Brad Marchand, après le match, je disais que c'est une équipe qui jouait vraiment différemment cette année. Là. C'était un autre style de hockey. C'est une équipe qui était plus difficile à affronter. Paul Maurice a dit la même chose. C'était complètement différent d'il y a deux ans en termes de style de jeu. Puis, je pense que ça prouve que Craig Berube, ben apporte une nouvelle vision, une nouvelle façon de jouer. Donc, lui aussi a fait le travail. Au niveau du personnel, ben, on a parlé de Marner Tavares. Ça risque de partir aussi, mais pour moi, ben, là, les yeux vont se tourner vers Shanahan cet été.
Mais peu importe qui va rester ou qui va partir, le prochain chantier à Toronto ne sera pas facile à construire. Non. Si tu dis au revoir à Mitch Marner et que tu obtiens absolument rien en retour, Marner, on parle quand même d'un ailier de 102 points. Il est critiqué pour son jeu en série, mais c'est 13 points en 13 matchs. Puis Mitch Marner, une facette qu'on oublie souvent, il est très important en infériorité numérique. C'est un gars qui est bon défensivement, qui vole beaucoup de rondelles. Donc, si tu remplaces Shanahan par un nouveau président, peut-être que tu décides de garder Brad Treliving en place, étant donné qu'il n'est pas là depuis Milan non plus du côté de Toronto. Mais ce ne sera pas facile. Si tu arrives, c'est un petit peu un panier de crabes. Puis Austin Matthews, veut pas, ne rajeunit pas. Même chose pour William Nylander. Ils ont peu de choix, peu d'espoir en banque. Donc, les Leafs peuvent rapidement nager en eau trouble là, dans les prochaines années. Là.
On a donné quand même Fraser Minton aussi, qui était un des bons espoirs de l'équipe pour s'améliorer à la date limite. Puis ça n'a pas donné les résultats escomptés.
Il reste Easton Cowan sans regarder la liste d'espoir, mais comme gros nom, il reste Easton. Et après ça, c'est assez mince, merci. Donc, tu sais, ça se joue à tellement peu de choses. Troisième match en Floride, les Maple Leafs mènent 3-1. Puis je me souviens que je textais Guillaume pour lui dire « Est-ce que c'est l'année des Leafs? » Puis un petit déraillement, 3-3, les Panthers réussissent à gagner le match numéro 3, qui était une rencontre quand même hyper importante. Puis après ça, c'est merci, bonsoir. On dirait qu'ils sont pas capables de se replacer.
Oui, puis la différence aussi pour de la manière que ça a été géré, c'est que tu regardes l'Avalanche du Colorado, on est dans une fenêtre de victoire, puis on a décidé, ben, on échange Rantanen parce qu'on ne veut pas perdre pour rien. Les Hurricanes auraient pu garder Rantanen puis se dire, on va aller jusqu'au bout avec lui, puis on le perdra par la suite. Mais non, on a décidé tout de suite de le rééchanger pour des valeurs qui vont faire que notre fenêtre d'opportunité va rester plus longue.
Oui, mais c'est rare que tu réussisses à te départir d'un joueur super étoile puis d'en sortir gagnant. Regarde la baboune de Nathan MacKinnon depuis le départ de Mikko Rantanen. Je suis pas convaincu qu'il a aimé la transaction. Est-ce qu'Austin Matthews va faire la baboune parce que Mitch Marner pourrait partir et que les Leafs n'obtiennent absolument rien en retour? Puis écoute, peut-être que Marner...
Ben, il y a la possibilité aussi d'un... Sign and trade. Là, on signe une entente puis on l'échange par la suite, mais on va obtenir quelque chose en retour, mais ça ne sera pas à la hauteur.
Pourquoi Marner ferait ce cadeau-là? Pour les 8 ans de contrat.
Il va gagner une année de contrat. C'est des technicalités, là, mais ce serait pour limiter les dégâts. Là,
Marner, qui au 1er juillet devient joueur autonome, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'équipes qui vont faire la file. Il va pouvoir décrocher son 12-13 millions par saison. Ça reste un très, très bon joueur de hockey. Là. À Toronto, on aime se servir de Mitch Marner comme bouc émissaire, mais un gars de 100 points, ça ne court pas les rues non plus. Là.
Est-ce que ce qu'il a fait en séries éliminatoires dans les dernières années, puis surtout cette année, ça fait baisser sa valeur à vos yeux? Pour sur le marché des joueurs autonomes?
Sur le marché des joueurs autonomes, non. Je pense pas. Il va aller chercher son 12 millions. Là.
Puis comme Jeff disait, tu regardes ses stats en général, c'est pas une catastrophe. Là. C'est pas un joueur qui s'est fait blanchir.
C'est dans les 4 derniers matchs que ça a été une catastrophe.
C'est ça.
Ouais.
Mais ça a toujours été ça. J'avais vu une stats passer après le 4e ou 5e match. Puis Mitch Marner, dans les matchs 1 à 4, ça va bien. Dans les matchs 5 à 7, s'éteint complètement. T'sais, c'est une question d'ajustement aussi de l'autre équipe. Là, Craig Berube n'a jamais voulu séparer Matthews et Marner. Puis ça, c'est une question qui revient année après année aussi parce que tu te dis, est-ce qu'on les sépare pour justement compliquer la tâche défensive de l'adversaire? Craig Berube a dit, ben j'ai essayé de les séparer cette saison puis ça donne jamais le résultat qu'on pense que ça va donner. Fait que j'aime mieux les garder ensemble. Mais là... T'sais, sur une série de 7 matchs où l'adversaire s'adapte et analyse tous les petits détails de ton jeu, ben c'est normal que rendu au match 4, tu sois plus aussi productif qu'au match 1 parce qu'on connaît tes tendances, on connaît les confrontations et tout ça. Donc, c'est normal, mais c'est une tendance qui est revenue souvent dans sa carrière. Fait que de ce côté-là, c'est un peu inquiétant, mais... Si tu ajoutes Marner à une équipe qui compte sur plusieurs autres éléments, Bon, vous allez me dire, c'est un peu le cas des Maple Leafs, mais le changement d'air, l'amener à quelque part d'autre avec d'autres éléments offensifs intéressants qui sont peut-être capables de livrer la marchandise, ben, ça peut peut-être faire la différence.
Moi, c'est exactement le point où je voulais m'en aller. Est-ce que Mitch Marner peut ressembler, on ne parle pas du tout du même type de joueur, mais est-ce que Mitch Marner peut être un Phil Kessel? Phil Kessel était à son meilleur quand il était dans l'ombre de Crosby, de Malkin. On ne lui demandait pas de transporter l'équipe, mais en série, il jouait très bien. Marner, c'était deux. Lui et Austin Matthews étaient probablement les visages principaux des Leafs, sont les visages principaux des Leafs. Mais est-ce que Marner serait meilleur avec un Nathan MacKinnon au Colorado, avec un Nikita Kucherov à Tampa,
avec un Nick Suzuki à Montréal.
Avec un Nick Suzuki à Montréal, mais avec un Connor McDavid du côté d'Edmonton. Est-ce que Marner est meilleur s'il n'est pas le gros nom? J'ai hâte de voir. Là.
Le problème avec ce que tu avances, JF, c'est qu'il va être le joueur le mieux payé de ton équipe.
Tu peux pas probablement faire, partout, mais le plafond augmente. Donc,
mais tu peux pas être Phil Kessel quand tu es le joueur le mieux payé de ton équipe.
Puis non, mais Phil Kessel du côté de Pittsburgh gagnait un 7 millions facile par année. Absolument, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que Marner a le caractère pour être celui vers qui tu te tournes et c'est uniquement lui, ton joueur franchise? Je ne suis pas persuadé à ce niveau-là.
Mais c'est parce que c'est ça, c'est que ça ne l'était pas. Ça n'était pas à Toronto nécessairement. Il était dans le core four, le noyau 4. Là, donc, le poids n'était pas tout sur ses épaules. Comme tu dis, c'est pas Nathan MacKinnon, c'est pas Ovechkin à Washington, peu importe. Donc, je pense que c'était ça. Donc, je pense vraiment qu'un changement de paysage, là, c'est obligatoire pour lui. Puis ça se peut. Là, ça se peut. Tu sais, gars, en Floride, mettons, là ça se peut qu'il explose. T'as Barkov, t'as nominé. Exact. Là, ça se peut que ça soit l'environnement parfait pour lui, puis il va aller chercher une coupe cette année. Puis il va même marquer dans un match numéro 7, ce qu'il n'aurait jamais fait en carrière.
Puis il va ramener la coupe à Toronto. Mais tu disais, c'est pas le joueur qui avait tout sur ses épaules, mais j'ai l'impression que, en théorie, c'est vrai, mais en pratique, on a parlé là, qui était la cible pour les partisans et tout ça. Austin Matthews a 3 buts dans ces séries-là.
Mais c'est ça.
En a un seul contre les Panthers. Et jamais dans la série, tu sais, oui, ça a été souligné, mais jamais il y a eu la pression de dire, tu sais, oui, il y a peut-être l'excuse de la blessure qu'on va apprendre dans les prochains jours ou de l'opération qui s'en vient, etc. Mais on dirait que les attentes ne sont pas les mêmes pour Mitch Marner que pour les autres membres de ce noyau-là. Fait que, théoriquement, la pression est divisée à 4, mais en pratique, ça revient toujours à Mitch Marner. Puis Mitch Marner,
c'est Matthews, le premier choix au total. C'est Tavares.
C'est Matthews qui a marqué 69 buts l'an dernier.
C'est ça. Puis Matthews, je disais Mitch Marner, jamais marqué en 6 matchs numéro 7 en carrière. Matthews non plus. Puis j'ai remarqué la même chose que toi. Est-ce que c'est parce que s'il était joueur autonome? Il va devenir joueur autonome sans compensation, puis c'était le
ouais, puis tu sais,
fermer la porte au nez. Là,
avec l'histoire de la tentative de transaction contre Rantanen aussi, je pense que ça a peut-être un peu échaudé les partisans, puis se sont dit, là, lui, on est tanné. Là, fait que, d'après moi, c'est un peu le processus, tu sais, on dirait tout. Tous les éléments se sont mis ensemble pour que les
Mais c'est qui le joueur le plus important au Maple Leaf? Est-ce que c'est Austin Matthews ou c'est Mitch Marner?
C'est Matthews.
C'est Matthews.
Machine à scorer.
Donc, il devrait avoir autant de pression sur les épaules de Matthews. Puis lui aussi, en série, doit se regarder dans le miroir. Même si, comme Guillaume disait, même aux Quatre Nations, on entendait dire qu'il avait mal au dos, qu'il traînait quelques bobos. Matthews n'a pas connu de grandes séries, mais c'est lui qui a marqué dans le match numéro 6 le premier but du match.
Je fais juste dire ça.
Son unique but de cette série-là.
Oui, c'est ça. Je fais juste dire c'est comme ça, mais imaginez si on ne réussit pas à remplacer Marner l'année prochaine, on ne remplace pas Tavares, à quel point il va avoir de la pression sur les épaules de Marner, plus que sur celle de Nylander.
De Matthews.
J'ai dit Marner, excuse, de Matthews.
Ouais. Non, absolument.
Ça va être incroyablement néfaste pour lui. Quand tu disais que le chantier va être long à Toronto, c'est une équipe que, sur papier, c'est une équipe qui peut se réinitialiser rapidement, mais je ne sais pas si ça va arriver. Puis je ne sais pas si l'environnement fait que peu importe la tentative de réinitialisation, ça va fonctionner. Donc, j'ai l'impression que 1967, là, ça va rester accroché pour encore quelques années, malheureusement, du côté de Toronto. On va tourner la page sur cette série-là. Qu'est-ce que je voulais? C'est le fun de parler des Maple Leafs, tout ça. Caroline Washington, écoutez, je pense qu'on en parlait au dernier balado, puis on disait qu'on trouvait qu'il y avait une équipe qui était faite pour les séries éliminatoires, puis une autre qui ne l'était pas. Puis ça s'est un peu confirmé, là, la série qui a été remportée par les Hurricanes. Avez-vous senti, en cinq matchs, avez-vous senti qu'il y avait un épuisement aussi du côté de la Caroline après cette. Du côté de Washington après cette saison-là?
Ben, un épuisement. Les Caps, oui, ils ont frappé, ils ont réussi à battre le CH en cinq matchs, mais est-ce que les Caps ont joué peut-être un petit peu au-dessus leur tête toute l'année, c'est une possibilité aussi. Les Hurricanes, jusqu'à présent, je trouve qu'ils ont eu un parcours, entre parenthèses, relativement facile. Ouais. Les Devils au premier tour, les Capitals au deuxième tour. Oui, on parlait d'une bonne équipe du côté des Caps, mais les Hurricanes ont beaucoup de profondeur, ça se voyait. C'est une équipe qui te bombarde de tirs aussi du début jusqu'à la fin du match. Svechnikov est en feu depuis le début des séries, donc les Hurricanes ont réussi à battre les Caps sans trop de problèmes. Puis on verra, par contre, là, c'est un animal bien différent, celui de la Panthère en finale de l'Est là, pour les Hurricanes. Ah,
puis en même temps, tu regardes le parcours des Hurricanes, c'était pas mal l'équipe qui sur papier, était facile à placer en finale de l'Est. Là. Peu importe les adversaires, les Devils au premier tour étaient amochés. Je pense qu'il y avait pas grand monde qui s'attendait à une grande opposition.
Jack Hughes jouait même pas, donc.
C'est Jacob Markstrom qui a sauvé, qui a donné même que ça s'est pas terminé à 4.
Ouais, c'est ça. Puis, fait, je pense que les Hurricanes, c'est une équipe qui est difficile à évaluer pour le moment parce que ils n'ont pas eu la même opposition que les Panthers jusqu'à date. J'aime la composition de l'équipe, j'aime leur façon de jouer. Ben, quoique c'est pas si spectaculaire, mais c'est efficace.
C'est plus intéressant, mais ça fonctionne. Ouais.
C'est efficace, ça fonctionne, mais j'ai hâte de voir parce que tu sais, les Panthers sont redevenus la machine de série, l'équipe qui écrase ses adversaires, qui. C'est vraiment impressionnant la façon qu'ils ont de revenir à leur style de jeu en tout temps, puis ça déroge pas du plan.
C'est une équipe de série.
Une seconde, c'est complètement fou. Fait que, oui, les Hurricanes sont en santé, ont eu beaucoup de repos quand même depuis le début des séries, mais c'est un gros défi pour eux, puis je pense que ça va être leur premier gros des séries, leur première période où ils vont traverser de l'adversité. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir à ça.
Parlons-en. Bon, finale d'association Caroline-Floride. Cette saison, les Panthers, 2 victoires, 1 défaite contre les Hurricanes. Donc, on a remporté le duel. Mais tu disais, les Panthers mettent la switch en mode série puis de manière efficace. Les Hurricanes ont un peu un profil, somme toute, similaire. On est allé, 3 fois cette saison en finale de l'Est. On a un entraîneur qui est là longtemps. On a une éthique de travail. Il y a moins de papier sablé du côté des Hurricanes, mais on en a parlé, là, le style de jeu, il est méthodique du côté de la Caroline. T'sais, est-ce que ça peut être... Je trouve que ces deux équipes qui se ressemblent aussi, une identité claire. Est-ce que ça peut être la bonne... pour les Hurricanes, surtout qu'on est plus reposé, comme tu disais, Guillaume?
Ben, peu importe, repos ou non, dans le cas des Hurricanes, oui, il y a quelques jours de repos, mais là, Sébastien Aho va avoir dans ses pattes Alexander Barkov. Si c'est pas Barkov, ça va être Anton Lundell. Je trouve que les Panthers, c'est une équipe qui est vraiment bâtie pour le jeu des séries. Aho aussi, jusqu'à présent... Oui, c'est un bon joueur en série, mais quand il arrive peut-être en finale de l'Est, il y a souvent un essoufflement dans le cas de Sébastien Aho. Je vois difficilement comment les Hurricanes peuvent freiner la grosse machine des Panthers.
Ben moi, la question, on en parlait avec Renaud Lavoie hier au souper, puis les Panthers, ça va être de voir combien d'énergie il reste dans le réservoir, combien de gaz il reste dans le réservoir, parce que Paul Maurice le disait, son noyau approche les 300 matchs de jouer dans les trois dernières années. Donc, à un moment donné, ça va finir par rattraper une équipe. On vient de jouer une grosse série de 7 matchs. La première a été 5 matchs contre le Lightning, mais d'après moi, en termes de coûts sur le physique des joueurs, ça a été assez important. Donc, pour moi, ça va être de voir si ce noyau-là a encore l'énergie pour atteindre une autre finale de la Coupe Stanley. T'sais, une troisième en 3 ans, quand même, ce serait assez impressionnant. Tu as vu un joueur comme Matthew Tkachuk dans la saison, dans la série contre les Maple Leafs, ça a été très, très peu visible. Je sais pas, il a terminé
avec Matthew Tkachuk est tranquille depuis le début des séries. Point.
Visiblement blessé. Je pense qu'il cache quelque chose, là, mais c'est ça. Si Tkachuk en est un, s'il y en a quelques autres joueurs qui ont des petits bobos à gauche, à droite, peut-être que contre une équipe qui a des jambes fraîches, qui est en santé comme les Hurricanes, ça peut à la longue devenir difficile de tenir le coup. Mais écoute, hier, on se posait la question s'ils étaient fatigués avant le match 7, puis ils ont répondu avec une victoire de 6-1.
Puis la profondeur, tu sais, je regarde en ce moment les statistiques des Panthers. Les deux gars au sommet des marqueurs, Brad Marchand. OK, tu peux prédire Brad Marchand parce qu'il est toujours bon en série. Le deuxième, c'est Etu Luostarinen, qui est un bon joueur de rôle, mais il a 12 points en ce moment. Combien de marqueurs? Il est très bon, Luostarinen.
Il est bon, Etu.
Oui. Ils ont combien de marqueurs? C'est 17 buteurs différents depuis le début des séries. T'sais, même Jonas Gadjovic, qui se fait insérer au sein d'un quatrième trio, vient donner de l'énergie. Marc aussi, 2 buts, 1 passe en 5 matchs.
AJ Greer, 1 but. AJ Jasper Greer. Buckfist, des gars qui ont pas joué tous les matchs. Ouais.
Si jamais Matthew Tkachuk peut moindrement rattraper le temps perdu, soigner quelques petits malaises, ils ont réussi à gagner les 2 premiers tours sans pratiquement Matthew Tkachuk, qui a quand même 9 points en 12 matchs. Là. C'est pas si mauvais que ça. Mais je sais pas. Je trouve l'équilibre. On parle pas souvent de lui, mais Sergei Bobrovsky, quand vient le temps de jouer un grand match, le Bob, il est présent, ouais. Il est là.
On l'a vu hier, l'arrêt.
Oui, en début de match, il était très bon.
Je vais amener quelques points positifs du côté des Hurricanes. Frederik Anderson est toujours en santé. Donc oui. Ça, c'est un gros point. Puis quand tu regardes statistiques avancées, tout ça, Anderson est peut-être le meilleur gardien depuis le début des séries éliminatoires. Donc ça, c'est un bon point. Mais moi, je me demande justement, t'es les Panthers, hein, tu t'en vas dans son demi-cercle, puis c'est un gars qui se blesse facilement. C'est un gars qui peut craindre un peu de se blesser, justement. Tu sais, je suis pas en train de dire de sortir le coude contre lui, là. Bon, Stallard et Bennett est un bon exemple, là, mais bon, ça s'est fait.
Sam Bennett va trouver un moyen d'aller.
J'ai pas le choix d'y aller avec cette comparaison-là, mais c'est ça qu'on a fait à Anthony Stallard. C'est ça qui s'est passé. Je suis pas en train de dire qu'il voulait le blesser, mais juste le déranger. Ça se peut que les chats soient dans la cage à Anderson assez rapidement, merci, pour justement l'ébranler. Et tu regardes, il y a certains joueurs du côté des Hurricanes plus petits. Des Stankoven, Seth Jarvis, j'ai hâte de voir comment il va réagir. Un gars comme Kotkaniemi, bon, là, il est plus dans un rôle de soutien.
Mais il est encore jeune, Jesperi.
C'est sûr, Jesperi est encore jeune. Mais j'ai hâte de voir comment ces joueurs-là vont réagir face au style de jeu des Panthers. Est-ce qu'ils se sont déjà affrontés, ces deux équipes-là, dans les dernières années en série? J'ai goût de dire non, là. Je vais vérifier, là, mais je pense que non.
Une
donc,
bonne question,
ça
mais
serait,
moi,
ça serait une première.
Ça va être un gros wake-up call pour les Hurricanes le premier match parce que tu arrives d'une série contre les Devils, d'une autre contre les Capitals. Là, c'est une toute autre paire de manches. C'est une grosse machine de hockey de série, les Panthers. Puis il va falloir que les Hurricanes soient prêts là, dès le début.
Je viens de vérifier. En 2023, les deux équipes s'étaient affrontées en
4-0.
Finale. 4-0, victoire des Panthers.
Ça avait été quand même serré, cette série-là, je crois. Mais je veux dire, ouais, c'était quand même des matchs des matchs serrés. Ça, je vais selon mes souvenirs. Là.
Mais ça en dit long quand même T'sais, on se souvient, les Panthers, cette année-là, ont perdu en finale contre le, c'était ouais. l'Avalanche.
Vegas,
t'as raison. L'Avalanche, c'était le Lightning. Donc, je vais dire comme vous, à moins que... T'sais, puis en plus, on pouvait avoir l'avantage de l'entraîneur, mais je pense que Rod Brendamo, Paul Maurice, t'es dans la même gamme d'entraîneurs de qualité, motivateurs en plus. Donc, je vois pas suffisamment de points qui peuvent avantager les Hurricanes. Peut-être, à moins que Jacob Slavin se transforme en deuxième gardien de but, ce qu'il est capable de faire, on l'a vu aux Quatre Nations, là. Mais mis à part ça, j'y vais, on y va avec nos prédictions, là. Moi, je vais y aller avec la Caroline en 6 matchs. Guillaume?
Ah, tu y vas avec la Caroline?
Tu vas à la Caroline?
Excuse-moi. Ben oui. Floride en 6 matchs.
Je trouvais ça
match.
Surprenant que tous tes arguments étaient pour les Panthers, mais tu y vas avec la Caroline.
Le gars, il plante, puis non, mais effectivement. Floride en 6, mes excuses. Guillaume?
Moi, je suis allé avec Floride en 7. Ça respecte pas vraiment la logique de ce que je viens de dire, d'une équipe qui peut être fatiguée et qui joue contre une équipe qui a les jambes fraîches et beaucoup de repos. Mais écoute, rendu là, hein, on est à 50% de réussite depuis le début des séries.
Moi, ça va pas bien.
Je pense que, écoute, c'est... j'ai flippé un 25 cents, puis c'était ça, mais selon moi... Sur papier, là, si tu mets les deux équipes en santé et tout ça, dès le départ, les Panthers l'emportent. Donc, je garde quand même cette théorie-là.
Moi, j'y vais pour les Panthers en 6, mais je pense que ça pourrait même être Panthers en 5. Mais je vais me garder une petite gêne. Panthers en 6, puis je salue quand même la mémoire de Guillaume. En 2023, quand les deux équipes s'étaient affrontées en série, oui, un coup de balai en 4 matchs, mais je regarde les 4 rencontres. Victoire de 3-2 en quatrième période de prolongation. Victoire de 2-1 en prolongation. Victoire 1-0 et victoire 4-3. Donc, c'était pas non, un coup ça. De balai qui était si à l'avantage d'une équipe.
Bravo pour la qualité de la mémoire de Guillaume. On passe à l'ouest maintenant, série Dallas-Winnipeg. Connor Hellebuyck va avoir été, malgré le fait qu'il a vraiment bien terminé la série... Ça aura coûté peut-être la victoire qui aurait pu faire la différence du côté des Jets. Avez-vous vu le sixième match, messieurs, un peu? Comment ça s'est passé?
Oui, moi, j'ai regardé de grandes portions. Quand même heureux de voir que les Bucks s'est replacé en fin de série. Puis le dernier match du côté de Dallas sur la route, oui, c'est une défaite, mais c'est une défaite en prolongation. Et il a quand même joué. Avec Mark Scheifele, on connaît l'histoire, Mark Scheifele qui perd son père la nuit avant le sixième match. Brad, si ma mémoire est bonne, Brad Scheifele. Pauvre Mark Scheifele, c'est lui qui est au banc quand les Stars marquent le but vainqueur, mais en même temps, c'est lui qui a marqué l'unique but. Puis en fin de troisième période, je crois qu'il y a Mason Appleton qui va revoir longtemps la chance manquée de l'arrêt de Jake Oettinger. Les Jets sont pas assez proches de pousser cette série-là à la limite des 7, mais je crois malgré tout que la meilleure des deux équipes a fini par gagner.
Et en plus, on a perdu Josh Morrissey durant ce match-là.
Ouais,
tu perds ton défenseur numéro 1. Il y a beaucoup d'émotions. Ça aurait pu donner les fameux scénarios Hollywood. Là. Moi, je faisais un parallèle avec Brett Favre le jour ou le lendemain du décès de son père qui avait lancé pour à peu près 400 verges puis 4 touchés là, contre, lors du Monday Night Football. Mais oui, les Jets, à la prochaine, est-ce qu'on peut dire ça quand vous regardez cette équipe-là à long terme? Il y a Nick Ehlers qui est joueur autonome sans compensation, mais pour le reste, c'est un noyau qui est quand même en place pour longtemps. On espère que du côté de Josh Morrissey, c'est pas trop grave sa blessure. Mais à la prochaine pour les Jets?
Oui, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est toujours un peu... Dans les meilleurs de la ligue, cette année, c'était une domination complète, là, mais tu regardes le noyau, c'est une équipe qui a des éléments très, très intéressants. Mais moi, ma question, c'est est-ce que, un peu à la manière des Leafs, est-ce qu'on a les éléments pour pousser loin au printemps? Les Jets ont quand même toujours de bonnes saisons. Là. J'y vais encore de mémoire, là, mais c'est toujours une équipe qui se maintient parmi les bonnes équipes de la Ligue. Une fois que les séries commencent, ben on dirait qu'on a toujours tendance à les mettre dans le rôle des négligés parce que justement, c'est peut-être pas une équipe qui a cet ADN-là de série ou qu'il y a des joueurs de série particulièrement. Donc, c'est peut-être le seul point d'interrogation que j'ai de ce côté-là. Ce serait peut-être intéressant cet été d'aller chercher des éléments qui pourraient permettre à cette équipe-là de passer à la prochaine étape en série, parce que jusqu'à maintenant, ben, ce sont des bonnes saisons, mais pas de résultats quand ça compte.
Et on parle du CH qui se cherche un deuxième centre, mais les Jets pourraient également courir après un deuxième centre. J'ai rien contre Namestnikov ou Adam Lowry, mais tu aurais besoin d'encore plus de mordant, plus de talent offensif comme deuxième centre. La bonne nouvelle, par contre, Cole Perfetti est un très jeune joueur qui continue de s'améliorer.
Villardy aussi.
Villardy, ouais. Kyle Connor est un petit peu plus vieux, mais reste en bas de 30 ans. Donc, le noyau dur des Jets est intéressant. Puis, ça va être moins la panique dans les prochaines semaines versus Toronto. Donc, ça risque d'être plus calme à Winnipeg.
Le gros travail, oui, de
Kevin
Cheveldayoff cet été, c'est Kyle Connor, parce qu'il va rester une année à son contrat.
Saison.
Donc, c'est de s'entendre avec lui le plus rapidement possible. Je ne sais pas si ça va arriver, mais Mark Scheifele est sous contrat pendant longtemps et LeBuck est sous contrat pendant longtemps. Je trouve que les pions sont bien placés pour qu'un Connor fasse « Écoute, si je reste à Winnipeg, je peux gagner avec cette équipe-là. » Donc, si tu viens convaincre lui, ben là, après, ça peut débouler. Morrissey aussi est sous contrat jusqu'à la saison 2027-28. Il y a des bons éléments. Si LeBuck fait quelques arrêts de plus en séries éliminatoires dans les prochaines années, peut-être qu'on n'aura pas la même conversation. Je veux dire, les Jets auraient très bien pu. Autant, tu sais, ça aurait peut-être aidé de ne pas jouer 7 matchs contre Saint-Louis aussi. Là. On parlait de
LeBuck. Puis là, Saint-Louis, ils ont quand même passé à une seconde d'être éliminé au premier tour. Tu as eu une victoire plus que dramatique contre les Blues. Ça reste une déception, mais d'avoir les Stars dans tes pattes, C'était pas une confrontation facile pour les...
Exactement. L'autre série, Edmonton et
Vegas.
Vegas. Bon, c'était terminé lorsqu'on s'est parlé lors du dernier balado. Donc, on va passer directement à la finale d'association. Cette saison, Dallas 2-1. Donc, a eu l'avantage sur les Oilers. Edmonton va arriver reposé pour cette série-là qui débute, ça débute demain, hein, mardi?
Mercredi.
Donc,
dans l'Ouest.
Et mardi, demain,
dans
l'Est. Le match?
Oui, bon, mardi dans l'Est.
Je suis mélangé. Quand vous regardez cette série-là, bon, Edmonton sont reposés. Est-ce que ça va être crucial contre une équipe? Est-ce que ça va faire une différence, à vrai dire, dans cette série-là?
Ben écoute, repos ou non, on parle de deux très, très grosses machines de hockey qui s'affrontent. Moi, j'ai choisi les Oilers. Je crois à un retour en finale de la Coupe Stanley. Je sens que cette équipe-là, McDavid, Leon Draisaitl, Zach Hyman et compagnie, sont en mission pour gagner la Coupe. Il y a plus de profondeur cette année avec les Oilers. Ils pourraient peut-être avoir un retour magique de Mathias Ekholm, mais je ne payerais pas toutes mes billes sur un retour de Mathias Ekholm, mais on n'écarte pas la possibilité du côté des Oilers de le voir en finale de l'Ouest. J'ai beaucoup aimé les derniers matchs des Oilers contre les Golden Knights, qui ont été capables de gagner en jouant du bon jeu défensif. Si on voit les Oilers du deuxième tour contre les Golden Knights, je crois qu'ils vont battre les Stars. Mais si on voit les Oilers du premier tour contre les Kings, ils vont perdre. Donc, si les Oilers maintiennent le cap comme ils l'ont fait contre les Golden Knights, je vois dans ma soupe McDavid encore en finale. Puis juste pour voir les yeux de Guillaume quand on va faire le voyagement entre la Floride et Edmonton, je maintiens cette prédiction-là, Floride-Edmonton.
Ces deux équipes, on dit souvent qu'il faut apprendre à perdre en série pour finalement gagner. Ces deux équipes qui ont beaucoup appris à perdre dans les dernières années. Quoi, les Stars, c'est la troisième année de suite qu'on se retrouve en finale d'association. L'an passé, on a perdu contre les Oilers. Eux, les Oilers ont perdu en finale l'année dernière. En plus, quoi, ils ont trois participations en finale d'association lors des quatre dernières années. C'est énormément d'expérience. Le seul endroit où je trouve qu'il y a une grosse différence d'expérience, c'est derrière le banc. Pete DeBoer, qui n'a jamais gagné la Coupe cette année, mais comme qui a fait quoi, c'est six fois en cette saison qu'il est dans le carré d'as, quoi, avec les Golden Knights et avec les Sharks. Hein, il est passé partout.
Congédié comme... deux fois dans cette séquence-là. C'est quand même.
Ça a du sens, ça n'a aucun sens. Puis là-dessus, il y avait eu Il y avait eu la fameuse fois là, où il y avait eu un mauvais appel à la mise au jeu, puis ça avait donné une pénalité de 5 minutes c'était aux Sharks contre les Golden Knights. Plutôt les Sharks en avaient profité contre les Golden Knights. Mais bon, à quel point ça va faire une différence, la présence d'un Doubleheader face à un no-block dans une situation comme ça? Ça n'a pas fait la différence l'année dernière. Est-ce que ça va changer cette année?
Ben, l'an dernier, en finale, la Coupe Stanley, Knobloch n'avait pas d'expérience contre Paul Maurice. Puis il a quand même réussi à se battre jusqu'au septième match de la finale de la Coupe Stanley. Puis Chris Knobloch, quand même, il enseigne au cégep en philosophie depuis peut-être une vingtaine d'années. Donc ça, je ne sais pas si ça compte comme expérience, mais...
Non, il faudrait quand même spécifier que c'est pas vrai.
Non. C'est juste qu'on trouve que Chris Knobloch a de l'air de ton professeur d'université ou de cégep, ouais. Peu importe. Puis honnêtement, un côté très sérieux aussi en conférence de presse. C'est pas celui
les points de presse de Knobloch en finale de la Coupe, quand tout le monde est assis sur sa chaise dans la salle de conférence. Puis là, tu vois les regards se promener puis aller vers le mur, vers le plafond, comme dans une classe de cégep où tu décides de te dissocier complètement puis de te mettre à penser à autre chose pendant que le prof parle. Ça ressemble à ça parce que c'est un gars, c'est pas qu'il est pas intéressant, mais il est ultra monotone, aucune émotion dans sa voix.
Laborieux. J'aime quand même le travail qu'il réussit à effectuer avec les Oilers. Tu sais, quand vient le temps de placer McDavid et Draisaitl ensemble, ils n'hésitent pas. C'est un coach qui est quand même très actif derrière son banc. Puis depuis le début des séries, aussi un aspect nouveau, Knobloch donne un petit peu de temps de jeu à Connor McDavid en infériorité numérique. Ça ne s'est pas encore produit, mais McDavid, avec la vitesse qu'il a en infériorité numérique, va finir par te marquer un gros but à un moment clé. Écoute, oui, DeBoer a plus d'expérience. Puis même, il y a Alain Nasreddine aussi qui est un entraîneur maintenant de métier comme adjoint avec les Stars. Mais je crois que c'est plus les chevaux devant les entraîneurs qui vont décider du sort de cette série-là.
À moins que cette série-là se rende en 7 matchs. Là, l'avantage DeBoer, je pense, va faire la différence. C'est un entraîneur
qui n'a jamais perdu.
9-0 en match 7 dans les séries éliminatoires de la Coupe cette année. Donc, je pense que c'est si ça
et les Stars 7, ont l'avantage de la glace.
C'est là que je vais répondre oui à ta question, Nick, mais pour le reste,
je vais ajouter un autre point. Avantage de la glace, 7e match possiblement, mais au niveau de la profondeur, dans une longue série, les Stars ont beaucoup plus de profondeur que les Oilers. Les Oilers, c'est le fun de monstre à deux têtes, mais tu sais, je regarde, là, c'est Sam Steele a marqué dans la série contre Winnipeg. Granlund a fait un tour du chapeau. Tu sais, on a tellement parlé d'un Wyatt Johnston. Ben, Wyatt Johnston, il n'a pas été super productif là, dans la série contre les Jets.
Non, mais les Oilers te diront qu'Adam Henrik a marqué, qu'Evander Kane a marqué, que Kasperi Kapanen a marqué. Non, ouais. Tu sais, Wyatt Johnson est un beaucoup plus gros nom, il n'y a aucun doute, on s'entend. Mais c'est pas vrai que c'est une équipe qui compte uniquement sur deux joueurs. C'est plus dans ce sens-là. Oui, il y a McDavid, il y a Draisaitl, le monstre à deux têtes sera toujours présent, mais le monstre est mieux entouré qu'il y a quelques années.
Ouais, mais moi, c'est vraiment ce qui a fait pencher la balance du côté des Stars, là, cette profondeur-là. Écoute, tes deux premiers ailiers droits, Rantanen, Seguin. De l'autre côté, Granlund, Ben. Ta ligne de centre, Hintz, Duchesne, Johnston. Jason Robertson est sur un troisième trio. C'est de la force de frappe en attaque. T'as Miro Heiskanen qui est de retour. Jake Oettinger qui, contrairement au gardien des Oilers, Stuart Skinner, pas connu vraiment de matchs atroces dans ces séries-là, est assez dominant. On parle de lui comme du prochain numéro 1 des États-Unis aux Jeux Olympiques en février prochain. T'sais.
Vu qu'ils sont pas à Winnipeg. Là.
Exact, ouais, c'est ça. Non, tu sais, je regarde cette formation-là, puis c'est un peu mon thinking depuis le départ. Il y a très peu de failles. La seule équipe que je voyais les battre, c'était l'Avalanche, puis j'envoyais l'Avalanche en finale ensuite. Donc là, les Stars sont sortis vainqueurs. Je crois que je conserve cette ligne vers la finale pour l'équipe qui a remporté cette série.
Je vais emmener un autre point là, contre Winnipeg. Johnston, 1 point à 6 matchs. Ben, 1 point à 6 matchs. Seguin, 1 point à 6 matchs. Robertson, 1 point à 6 matchs. Miro Heiskanen a manqué 3 matchs de la série. puis malgré tout ce que je viens de nommer, tu gagnes cette série-là en 6 en plus. Ça en dit long sur la profondeur de cette équipe-là.
Les gars, je suis d'accord, mais je pense plus, les gars, que Séguin et Ben doivent être considérés comme des joueurs étoiles. Séguin et Ben sont plus en fin de carrière, deux bons joueurs d'expérience.
Ouais, mais je pense que je prends un des deux avant Adam Henrique, là.
Oui, mais...
Jeff Skinner?
Écoute, les matchs 3, 4, 5... Non, mais Jeff Skinner ne joue pas, Victor Arvidsson ne joue pas non plus. Écoute, probablement que ma tête me dirait de...
Tu prends Séguin ou Connor Perry? Tu prends Séguin ou Connor Brown?
Écoute, Connor Brown, c'est pas un mauvais joueur en série.
Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur.
C'est un bon patineur. Oui, je prends probablement Séguin. Mais Corey Perry reste Corey Perry qui va être fatigant. Probablement que ma tête me dirait d'y aller avec les Stars. Mais comme je me répète, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que j'ai vu sur place dans les matchs 3-4-5 des Oilers. C'est pas impossible.
T'as passé trop de temps avec notre collègue DVD, là.
Oui, j'ai passé beaucoup de temps.
C'est un bon vendeur pour les Oilers.
On salue le bon Derek. Mais un jour, Connor McDavid qui soulève la Coupe Stanley, je voudrais quand même voir ce scénario-là. McDavid est le meilleur joueur depuis plusieurs années. Écoute, puis si les Oilers réussissent à gagner malgré le fiasco de perdre Broberg et Dylan Holloway, ce sera un exploit peu banal du côté des Oilers.
Dernier point avant de se prononcer officiellement. Calvin Pickard, Stuart Skinner?
En ce moment, ça va être Stuart Skinner. Je pense pas que tu peux retirer un gardien qui vienne de signer deux jeux blancs.
Jusqu'à ce qu'il donne 4 buts dans le troisième match. Puis là, qu'on
c'est pas impossible que tu survoies Calvin Pickard.
Parce que là, je te demande, Jake Oettinger ou Stuart Skinner?
Je prends Jake Oettinger. Oui, je sais. Écoute, les deux, vous avez choisi Dallas. On n'est pas pour y aller toujours avec les mêmes prédictions.
Mais écoute, moi, on parlait de Phil. Là, il domine dans le pool
dans les
prédictions parce qu'il a pris les Oilers.
Phil a pris les Oilers aussi encore contre les Stars. Donc, un homme qui vient de voir sa femme donner naissance a souvent raison. Moi, je me range du côté de Phil.
Ouais, je pense que c'est plutôt l'inverse.
T'as tort sur tout à partir de là. Oui. C'est pas de tes affaires. Mais oui, donc officiellement, moi, je vais dire les Stars en 6. Guillaume, les Stars en...
En 6 aussi.
GF.
J'y vais pour les Oilers en 6. Puis je regarde mon pâté au poulet qui traîne sur le four depuis une heure. Je me dis qu'il faudrait qu'un jour je dîne. Donc, j'y vais pour les Oilers en 6.
Ben écoutez, on va pouvoir suivre ça. Tu vas pouvoir aller le manger, ton pâté au poulet. Moi, c'est... Écoute, il est quoi? Il est 2h40. Voyons, dîner. Il n'y a pas d'heure pour dîner. Mais oui, tu vas pouvoir aller le manger parce que c'est là-dessus que le balado va prendre fin. On va pouvoir suivre les gars, comme on l'a dit plus tôt dans l'émission. Vous allez être chacun suivre la série, chacune des séries de très près. Les gens vont pouvoir lire ça sur le LNH.com. Prochain balado... au milieu de la prochaine série, probablement, donc la semaine prochaine, là, vers peut-être lundi, là, le lundi suivant, là, mais bon.
Écoute, moi, je serais à Edmonton, les jours peuvent être... Tu sais, le temps d'ensoleillement est très grand du côté d'Edmonton. Je vais avoir amplement de temps pour vous jaser. Je pense pas partir à la découverte d'Edmonton.
Pas donc, beaucoup de tourisme à faire.
Non, Guillaume, lui, va aller à la beach, comme d'habitude. Donc, tu vas pouvoir... La beach d'Edmonton est un petit peu moins le fun en comparaison. Donc, pouvoir suivre ça sur LNH.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux partout pour être certain de ne rien manquer. Abonnez-vous au balado, peu importe où vous l'écoutez, pour être certain de ne pas manquer notre prochain épisode. Guillaume, GF, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Toujours un plaisir.
Ça fait plaisir.
Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.